Alors bonsoir à tous et merci d'être venus ce soir pour ces exercices d'ambiance donc de la revue Communication qui consacre son numéro 2 à ce sujet. Donc nous avons avec nous les anthropologues Véronique Naoum-Grapp, Éric Chauvier, Laure Carbonel et Maxime Le Calvez, le philosophe Olivier Gaudin, mais je crois qu'ils vont tous se présenter plus en détail. Jean-Paul Thibault, qui est sociologue, et Kamel Bouquir. Donc, je vais donner la parole à qui en premier? À Maxime Le Calvez. Et chacun se présentera en détail.
Alors, je vais
Merci à vous
commencer.
tous.
Pardon. Merci beaucoup. Je vais commencer par remercier Muriel Lardot pour toute son aide, pour nous avoir permis de nous rencontrer dans ce lieu magnifique, avec ce public qui est là, qui est présent, auquel on va passer la parole tout à l'heure. Et je voudrais remercier aussi donc le comité de rédaction de la revue avec Nicole Lapierre, avec Evelyne Ribert et Marie Bergeon. Merci beaucoup, Marie. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est tout simplement un tour de table assez rapide. Je vais passer le micro de façon à ce que chacun dise quelques mots sur qui il est. Ensuite, nous allons présenter la démarche par laquelle nous sommes arrivés à diriger ce numéro. Et puis, donc vous présenter le titre. Donc, je vais vous présenter le titre. Et puis, Olivier va vous présenter le sous-titre. Voilà, c'est comme ça que nous allons procéder. Donc, je vais passer tout de suite la parole à Véronique Naoum-Grapp. Véronique, qui es-tu?
Donc, je suis une chercheure en sciences sociales, entre l'ethnologie, l'anthropologie et un peu l'histoire du quotidien il y a quelques années. Et disons que le hasard de mes sujets de recherche, ayant travaillé sur l'ennui ou sur les états psychotropes, qui sont des états où vraiment de manipulation des ambiances internes et donc externes, c'est une notion qui m'a toujours très intéressée. Et quand j'ai vu que des courageux jeunes chercheurs avaient pris l'objet frontalement pour un séminaire, je me suis dit en avant, il faut accompagner, voir. Et du coup, le projet du numéro, on l'a un peu, voilà, pensé ensemble. Et le fait, et donc voilà, en tant que chercheur, l'idée d'objectiver une notion très littéraire, très floue et très délicate, je trouve que ça très exaltant. C'est un travail d'un peu de pionnier. Voilà.
Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Kamel Bouquir, sociologue. Je suis actuellement en postdoctorat. Je réalise une recherche actuellement sur la référence à l'islam au quotidien dans les banlieues. Donc, il y a une forme de continuité avec mon travail de thèse qui portait sur la fréquentation des usages, enfin des espaces publics par les jeunes au pied des barres HLM. Et donc, un peu par fatalité, parce qu'on passe énormément de temps à fréquenter les pieds des immeubles, on s'y ennuie aussi parfois, on s'y amuse beaucoup. Donc, la question des ambiances était presque par vocation. À l'intérieur de la thèse, si ce n'est que je n'avais pas les outils pour pouvoir les analyser. Donc, ce qui m'intéressait beaucoup dans cette question des atmosphères ou des ambiances, c'était la question de l'articulation entre les émotions et le corps sensible, comment les gens vivent des émotions telles que la peur, la colère, l'amitié. Donc, il y avait une articulation entre une sociologie morale, donc, entre les jeunes, leurs relations d'amitié, d'inimitié, de complicité. Et comment elles étaient articulées à des ambiances. Donc, à quelque chose du coup de très évanescent qui est un peu diffus. Et donc, l'idée, c'était d'arriver à décrire, de trouver un langage qui puisse permettre de décrire ces ambiances.
Bonjour, donc je suis Laure Carbonel, anthropologue. Du coup, on a dévié. je travaille au Mali. J'ai réalisé ma thèse au Mali sur des clowns, ce qu'on appelle dans le jargon ethnologique des bouffons rituels. Et donc cette publication était dans la continuité d'une réflexion qui était surtout sur la question de la description ethnographique de personnages qui devaient qui qui existait par la qualité de présence, en fait. Et voilà, on aura l'occasion de discuter plus en avant après.
Bonsoir, Éric Chauvier, je suis anthropologue et je travaille sur beaucoup sur le périurbain, périmétropolitain, suburbain. Ça, c'est mon premier objet de recherche. Et mon deuxième objet de recherche, c'est la question de l'intuition dans le projet architectural. Je travaille beaucoup sur ces questions-là. Comment est-ce que l'architecte peut transcoder différentes étapes de ses émotions premières. Après, je suis venu à la question des ambiances. J'ai été sollicité à la fois pour cette revue et puis aussi parce que c'est un enjeu très important en architecture, l'ambiance, en fait. Et donc, je le prends au sérieux. Mais j'ai envie de déconstruire ça aussi, un peu, de façon un peu frénétique. C'est-à-dire que ça m'intéresse, mais j'ai besoin de le recontextualiser ailleurs. Je suis content de voir qu'il y a des ambiances aussi dans les banlieues. Mais c'est intéressant de voir comment ce concept est l'objet d'usage, en fait. Moi, c'est un peu ce qui m'intéresse. Est-ce que c'est juste un objet d'usage pour des esthètes, ou est-ce qu'on peut déplacer ça, ou est-ce qu'il y a une question un peu sociale qui parcourt ça, des usages. Et je trouve que je suis d'accord, c'est un peu flou. Donc c'est intéressant.
Bonjour, je suis Jean-Paul Thibault, je suis chercheur CNRS dans un laboratoire qui s'appelle Le Cresson, à l'École d'architecture de Grenoble. Je suis au départ, en tout cas, sociologue et urbaniste de formation. Si je devais me qualifier maintenant, j'aurais un peu plus de mal, en fait, à me situer d'un point de vue disciplinaire. Alors, je suis venu aux ambiances, en fait, par le son, parce que j'ai pas mal, enfin, le laboratoire auquel j'appartiens, en fait, a beaucoup travaillé sur la question de l'environnement sonore et de l'expérience sonore. Et puis, tout naturellement, le son nous a conduit à travailler sur l'ambiance, avec une attention, en fait, très, très marquée sur des questions qui ont trait à l'expérience sensible, habitante, et l'expérience ordinaire, en particulier, habitante. Ça fait une vingtaine d'années que le Cresson, que l'UMR auquel j'appartiens, auquel aussi appartenu Eric au créneau à Nantes, travaille sur cette question-là des ambiances, qui est une notion qu'on a essayé de développer d'un point de vue très pluridisciplinaire. En ce qui me concerne, j'ai travaillé plutôt sur le domaine des espaces publics, sur la question de la marche en milieu urbain. Pour moi, l'ambiance est une façon, en fait, d'essayer de travailler sur une modalité de description de ce que pourrait être une expérience sonore ordinaire. Et donc, ça pose une question qui va, j'imagine, être débattue bientôt, maintenant ou tout à l'heure, sur est-ce qu'il y a toujours ambiance ou est-ce qu'il peut ne pas y avoir ambiance dans l'expérience ?
Merci beaucoup. Donc, Maxime Le Calvé, je suis ethnologue. Dans deux semaines, je ne serai plus doctorant. Voilà. Je suis au Centre Georg Simmel à l'École des hautes études en sciences sociales. J'ai eu la chance, la joie de diriger ce numéro avec Olivier Godin. Alors, comment ce projet est né ? Ce projet est né à partir d'un séminaire que j'ai co-organisé avec Anne Seid, puis après avec Véronique Naumgrapp, et pendant deux années. Et cette idée de séminaire, ce qui s'appelait Présence et atmosphère, est née parce que, faisant mes recherches sur la production, sur la mise en scène d'un opéra en Allemagne, je suis allé m'intéresser aux études théâtrales en Allemagne, à Berlin, et la manière dont ils travaillent. Et il se trouve que dans cet institut d'études théâtrales à Berlin, dans lequel je suis, il y a eu une sorte de petite révolution. Les gens ont commencé à s'intéresser beaucoup plus d'abord aux aspects performatifs, alors ça c'était pas nouveau, mais surtout à toutes sortes de méthodes qui permettent de décrire ce qui se passe sur une scène de théâtre et qui ne soit plus de l'ordre de l'analyse, qui ne soit plus de l'ordre d'une sémiologie. Et donc, je suis tombé sur des méthodes extrêmement proches de celles que j'avais apprises, les méthodes de l'ethnographie, et notamment des méthodes de l'ethnographie sensible, la phénoménographie en particulier. Voilà. Et donc, j'ai proposé faire ce séminaire, et cela m'a amené notamment à m'intéresser plus profondément à Gernot Bemeu, donc, qui a produit notamment un texte qui est traduit dans ce numéro, et qui parle des travailleurs ordinaires de l'ambiance et des atmosphères. Parce que Gernot Bebe parle plutôt des atmosphères, on va en reparler un petit peu de cette différenciation. Donc, ce que dit Gernot Bebe, c'est qu'on peut fonder une nouvelle esthétique en s'intéressant non pas juste à l'art, mais plutôt au travail de ces gens qui, dans le quotidien, les urbanistes, les gens qui font du marketing d'une certaine manière, mais plein de gens dans tout plein de domaines de la vie sociale, travaillent avec ces phénomènes, les utilisent pour agir et sont aussi agis par eux. Le programme, finalement le programme scientifique qui nous est apparu pour ce séminaire, rapidement s'est divisé en deux parties et le titre Exercice d'ambiance l'explicite assez bien. La première chose, c'est déjà comment sont exercées les ambiances? Comment font les praticiens de ces ambiances dans ces contextes extrêmement variés pour changer, agir sur les situations? Comment se confrontent-ils à ces ambiances et qu'est-ce qu'ils en font? Et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait dans les situations d'avoir des ambiances variées? Et voilà, donc ça c'était la première chose. Donc on a envoyé, c'était plutôt l'aspect ethnographie, anthropologie des pratiques. Et il y avait un second volet qui était dans la pratique de l'anthropologue, comment faire pour rendre compte, comment écrire les ambiances, comment saisir les aspects sensibles des situations. Et là, c'était plutôt l'aspect donc écriture, et ce fut le deuxième volet. Dans le numéro, on a gardé cette structure. On a une première partie avec des éclaircissements théoriques qui nous sont apparus comme nécessaires assez rapidement. Et puis après, nous avons un volet qui est plus donc enquête sur les pratiques. Que font les gens avec les atmosphères? Donc on a notamment Laure Carbonel ici. Que font les clowns rituels au Mali? Comment est-ce qu'ils agissent avec les atmosphères, au travers des atmosphères? J'écris moi-même un papier sur l'artiste contemporain avec lequel j'ai travaillé pendant ma thèse. Comment agit-il dans des contextes de performance avec la provocation pour arriver à saisir son auditoire, à proposer quelque chose de neuf, à faire de l'art? Voilà. Dans la deuxième partie du numéro, c'est plus sur l'écriture. Nous avons notamment Kamel Boukir sur les ambiances de merde aussi, on va en reparler probablement. Toutes ces ambiances qui se déploient dans ces différents contextes qu'il a pu étudier. Et le numéro se clôture avec Véronique Naum-Grapp, avec un texte fantastique sur l'épaisseur, sur le fait, la présence, ouais, l'épaisseur du présent. Voilà. Je vais passer maintenant la parole à Olivier Gaudin qui va vous présenter le sous-titre de ce numéro. Qui va vous donner quelques éclairages conceptuels.
Éclairage. Merci Maxime, merci, bonsoir à toutes et à tous. Merci au musée de nous accueillir. Donc effectivement, j'ai co-dirigé le numéro avec Maxime et je me présente rapidement. Moi, j'ai un parcours assez différent. Je viens de la philosophie et en particulier de la philosophie des sciences sociales. Donc j'ai travaillé beaucoup sur la question de l'expérience lorsqu'elle était articulée à des enquêtes en situation urbaine. C'était l'objet de mon travail de thèse et j'en suis venu donc à essayer de développer une écologie sensible dans le sens assez précis, donc hérité de l'écologie humaine de Chicago, ce qui me conduirait assez loin si j'en parlais là, mais c'est pour expliquer aussi ma présence ici et le travail donc avec Maxime. Donc moi, je viens pas du tout de l'esthétique et pour ma part, j'avais une approche plutôt sceptique de la notion d'ambiance. Ce qui était intéressant justement, c'était de travailler un peu en interaction dans la conception du numéro avec Maxime à ce sujet-là. Donc je l'en remercie. Au passage, à nouveau. Pour ce qui est donc de ce numéro, donc on a effectivement conçu, en prenant la notion d'exercice également au sens peut-être d'expérimentation, de mise à l'épreuve, test un peu. Est-ce que ce concept, il est, quand on raisonne un peu à la manière des sciences expérimentales, comme nous y invite la tradition pragmatiste en sciences sociales, en philosophie, est-ce qu'on peut justement faire bouger quelques lignes, y compris sur les concepts que l'on emploie? Est-ce que l'ambiance est un concept justement si solide? Bon, c'était une des questions qu'on avait au départ. Et bien sûr, on voulait ouvrir parce que la revue Communication avait déjà accueilli, je dirais, dans ses colonnes, dans ses pages, des réflexions à ce sujet. Il y avait eu un numéro auquel avait participé Jean-Paul Thibault sur les bruits, les sons de la ville. Donc on souhaitait changer un peu la perspective et de ce point de vue-là. Le sous-titre effectivement est important. Donc, je le commente rapidement. Il s'intitule donc Présence, enquête, écriture, tout ça au pluriel, et il renvoie à la structure au fond très classiquement ternaire du numéro, avec une tentative d'éclaircissement effectivement dans la première partie, cinq articles qui réfléchissent donc sur le rapport entre la notion de présence, celle d'ambiance et celle d'atmosphère. Nous avons aussi rédigé avec Maxime une introduction qui essayait d'ouvrir également les questions autour de la définition des atmosphères et des ambiances, sont-elles synonymes ou non. Et dans ces cinq contributions, donc, ces cinq éclaircissements, on a tâché donc, de proposer aux auteurs de reconnaître les manières de qualifier ces situations d'interaction que sont les ambiances, sachant que ce ne sont pas justement des interactions signifiantes de manière traditionnelle, on pourrait dire, c'est-à-dire sur le plan symbolique, avec des échanges immédiatement identifiables sur le plan du langage, par exemple, mais que, à travers les expressions linguistiques, par exemple, peuvent passer d'autres choses que simplement le sens de ce qui est dit en termes de référence décontextualisée. Donc, c'était bien sûr l'objet d'engager une réflexion sur le contexte. Comment un contexte sensible, avec sa texture, son épaisseur, son incertitude, parfois peut être qualifié par des chercheurs en sciences sociales. D'où la présence aussi de deux textes en traduction. Donc, il a été fait allusion à celui de Gernot Böhme, qui lui parle vraiment de l'esthétique en l'élargissant, comme a bien rappelé Maxime, mais aussi d'un autre auteur, donc Hermann Schmitz, qui lui est le fondateur de ce qu'on a appelé en Allemagne la nouvelle phénoménologie, qui est un courant encore assez peu connu en France, et qui lui s'intéresse aux sentiments, par exemple. Donc il y avait tout un dialogue avec le registre des émotions, avec la psychologie, qui nous semblait évidemment essentiel d'intégrer également dans le numéro. Les ambiances peuvent aussi donner lieu justement à des questionnements sur ce que donc Jean-Paul Thibault, on pourra en reparler un petit peu puisqu'il est là, appelle les puissances d'imprégnation, sachant que donc les ambiances ne sont pas des objets, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, aisément identifiables avec des contours, avec des limites que l'on pourrait saisir par une activité de perception, disons, habituelle, de catégorisation, mais qu'il faut plutôt chercher du côté de, donc je cite ici les termes de Jean-Paul Thibault, d'immersion, animation, acclimatation. Tout ça, ce sont des termes qui nous ont beaucoup intéressés lorsque nous avons édité son article. Et donc, au fond, c'est non pas congédier, mais élargir, ouvrir le champ d'une esthétique générale, c'est-à-dire une esthétique revenant au sens un peu philosophique du terme, c'est une théorie de la perception, plutôt que simplement une esthétique se rapprochant du monde des arts uniquement. À l'inverse, il ne s'agit pas d'exclure, bien sûr, le monde des arts, mais d'aller l'explorer avec les outils de l'anthropologie. D'où une deuxième partie, donc, autour de la notion d'enquête, qui s'intitule « Enquête de terrain, être en présence de, faire avec ». Et cette fois, et là, c'était quelque chose qui nous paraissait justement insuffisamment représenté jusqu'ici. On a pu avoir donc des anthropologues, dont nous avons ici Laure Carbonel qui est présente, qui pourrait nous en parler directement. Maxime lui-même qui a travaillé en anthropologie avec cet outil-là. Et alors, Kamel est en réalité dans la troisième partie, mais c'est un texte qui peut marcher pour les deux. En tous les cas, des personnes qui l'utilisaient dans des situations d'enquête de terrain et qui se posaient la question justement d'ouvrir là aussi, sur le plan méthodologique finalement, des manières d'appréhender une situation en utilisant la notion d'ambiance, là aussi en la mettant à l'épreuve, en interrogeant la capacité de la notion d'ambiance à rendre compte de l'expérience sur un mode qui peut-être donc n'était pas habituel. De ce point de vue, la partie sur les enquêtes ouvre également à ce qui a été évoqué un peu plus tôt, c'est-à-dire le point de vue des praticiens, des personnes qui sont amenées à travailler avec l'ambiance, éventuellement dans une optique de contrôle. On a un texte de Fabienne Martin qui intervient dans la troisième partie également, mais qui montre cet usage de la notion d'ambiance dans un contexte d'analyse d'un centre commercial en Inde. Et dans tous les cas, voilà, on souhaitait entretenir un passage, une interrogation entre la notion d'usage dans l'enquête, d'usage de l'ambiance, et sa restitution dans l'écriture. D'où le fait que la troisième partie, qui concerne l'écriture, intègre également des enquêtes, et que les parties sur les textes sur l'enquête, bien sûr, s'interrogent également sur leurs moyens d'écriture. Donc la troisième partie, elle s'intitule « Rendre compte des ambiances mises en scène et mises en récit ». Et là, donc il s'agissait, la partie s'ouvre avec le texte de Kamel, sur les ambiances de la mort, dont on pourra parler tout de suite. Elle se clôt avec le texte de Véronique Naumgrab sur l'épaisseur du présent, qui prend du recul justement là aussi à nouveau sur les termes. Et là, c'était donc outre le travail de précision de l'écriture ethnographique qui est fondamental selon nous pour approcher la question de l'ambiance. Et il nous semblait intéressant donc d'interroger aussi des ambiances, disons, qu'on n'a pas vécues soi-même, ce qui peut être le travail des historiens. des philosophes aussi parfois. Et ici, on a donc plusieurs textes, dont celui d'Arlette Farge, historienne qu'il est inutile de présenter, ou celui de Thierry Pillon, qui s'intéresse aux années 1950 et 1960 avec l'exemple des bureaux. Qu'est-ce que c'est qu'une ambiance de bureau avec les couleurs d'ambiance? C'est l'intitulé de son texte. Revenant sur donc, des praticiens de l'ambiance qui sont les architectes d'intérieur au fond des années 50-60. Comment est-ce qu'ils prennent en compte ces facteurs-là? Vous voyez qu'il y a une très grande diversité d'approches et qu'on a tâché d'articuler sans engommer, je dirais, l'hétérogénéité. Il ne s'agissait pas de prétendre qu'on allait partager tous des présupposés. Donc c'est aussi l'objet de nous réunir un peu ce soir, peut-être de faire surgir quelques désaccords, quelques incompatibilités. On espère que ça va être le cas. Donc je ne veux pas être plus long ici, mais inviter en fait tout de suite Maxime à lancer une question dont pourront se saisir sans ordre préconçu nos intervenants.
Alors, question. Comment en êtes-vous venu à utiliser le concept, décidément? Alors, je lance la question à Véronique.
Comment j'en suis venue à utiliser le concept? D'abord, premier point, l'ambiance est toujours collective. Il n'y a pas, même quand le roi rentre dans une salle et que sa présence change l'ambiance, c'est pas lui qui l'a produit. C'est la question du pouvoir. C'est la question de l'usage des tactiques de luminosité, des couleurs. C'est la question de la ritualisation des postures corporelles, etc., etc. Alors déjà ça, je trouve le fait que c'est vraiment un objet d'une création collective du social, ça pour les sciences sociales, je trouve que c'est comme un cadeau, c'est onirique, je trouve. Alors, deuxième chose centrale, qui m'a toujours fascinée puisque j'avais travaillé sur l'esthétique du corps, la notion d'ambiance suppose nécessairement la compétence de la perception pour les signes extrêmement ténus. Exemple, comment est-ce qu'on se pressent quelqu'un vu de dos, et si on voulait le peindre, qu'il sourit, on le voit de dos. Vous voyez, comment on pressent que quelqu'un sourit alors qu'on voit de dos? C'est impossible. Mais dans la problématique de l'ambiance, si, quelque chose. Et peut-être on pourrait le peindre, quelqu'un de dos qui ne sourit pas, quelqu'un de dos qui sourit. Peut-être il y a un millimètre dans la nuque, et c'est très concret. Je ne parle pas de... toujours très physique, l'ambiance... C'est la gloire de la matière, mais la matière dans son mystère, c'est-à-dire incommensurable, non visible, avec des strates de réalité que nos capacités cognitives sont incapables de décrire. Alors, donc, ça, alors, par exemple, est-ce que dans une salle comme ça, comme la nôtre, il y a un... Si quelqu'un bouge un millimètre sans l'avoir vraiment voulu... les traits extrêmement signifiants des visages, un millimètre d'un peu de dégoût, de rigolade, lors d'un juré, etc. Ça, c'est des producteurs d'ambiance. Non seulement on perçoit, c'est-à-dire la compétence des acteurs sociaux de percevoir le signe infime, et c'est très important, ça peut vous réveiller, c'est vital, c'est pas seulement de l'esthétique pure, comme ça. Et en plus, deuxième, troisième point sur la question de l'ambiance, la notion d'ambiance suppose nécessairement non seulement percevoir toute une série de signes ténus extrêmement matériels à des niveaux différents de réalité, mais aussi nécessairement le monde derrière les murs ou le monde à l'extérieur de là où on est et le moment. Par exemple, tout le monde sait si on est le jour, la nuit ou le soir, et c'est très différent. La nuit est une énorme métamorphose de théâtrale. Et chaque jour, en plus, ça ne nous ennuie pas. Ça arrive tous les jours, plausiblement. À des moments différents, la nuit, un bouleversement d'ambiance stupéfiant et des rapports sociaux et des jeux de communication, ou le soir. Et comment se fait-il qu'on est tous ensemble, on est le soir ou la nuit. Donc perception du temps, du moment dans la notion d'ambiance, ça c'est aussi une énigme, il y a une compétence. Et le monde à l'extérieur, le monde des murs par exemple, est-ce que le calme qui règne ici est lié au fait que nous percevons le très beau jardin qui entoure le musée, même qui l'enveloppe. Un jardin qui enveloppe comme une chaussette un musée. C'est inouï. Est-ce que nous le sentons ou pas? On va dire non, il ne faut pas exagérer. Oui, mais la qualité du silence, est-ce que ça a à voir avec le calme qui règne autour de cette belle table carrée dont l'espace est très intéressant du point de vue de l'ambiance? Donc, c'est cet objet. Alors, comment j'y suis venue? Bon, ben, quand les acteurs sociaux, tout à coup, ce qui peut bouleverser des atmosphères non produites volontairement par des manipulateurs d'ambiance, par exemple des effets de peur, non pas sur des réalités, mais l'image, des effets de peur qui entraînent des changements, qui entraînent tout à coup des postures différentes, qui entraînent des barbelés, des murs, des frontières, des fossés. Il ne s'est rien passé. L'ambiance a changé, mais il ne s'est rien passé, etc., etc. Et donc les effets de peur, les effets de séduction, les effets d'emprise passent par le non-verbal et le fait que, sans doute, moi c'est une hypothèse, les acteurs sociaux, les êtres humains, Homo sapiens sapiens, communiquent aussi par la gesticulation primordiale, millimétrique ou démesurée, où l'autre est capte immédiatement où on en est à peu près, où l'autre en est de son humeur, de sa position interne, alors même que le sujet n'en est pas très conscient. C'est pas la peine, ce n'est ni non conscient, ni conscient. C'est pas inconscient, mais c'est pas très conscient, c'est pas verbalisé. Et ça, c'est très puissant, et ça tapisse. Alors, est-ce que ça tapisse tout le temps? Peut-être non, c'est une bonne question. Est-ce que toute expérience la produit? Non. À égalité, non. Est-ce que l'ennui, voilà, l'ennui, la joie, la peur, est-ce que c'est coloré par les sentiments collectifs? Et là, on peut plus faire de psychologie. Oui, non, il faut poser des questions. Et le vide de l'ennui mortel, c'est quoi ce truc-là? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé là? Comment ça fonctionne? Et donc, je pense que beaucoup d'événements sociaux, de situations, sont absolument incompréhensibles, notamment en politique, dans des événements politiques incompréhensibles si on n'a pas l'imagination rétrospective de l'ambiance en amont et de la description de l'ambiance. C'est absolument incompréhensible. Ils sont fous, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils sautent dans ce ravin? On ne comprend rien, il ne s'est rien passé, personne ne les a poussés. Et ben, avec la question de l'ambiance, voilà, nous sautons tous dans le ravin. Nous sautons tous dans la vin. Et donc, je pense que politiquement, et enfin, dernier point, je me tais, l'ambiance est donc l'objet d'une manipulation politique frénétique, en réalité. Aucun pouvoir ne peut s'en passer. Alors, je pense qu'il y a toujours deux strates, qui sourd du social et du jeu, de la communication formidable en amont de la parole, mais en temps réel, dans un groupe ou dans une situation. Et les enjeux de pouvoir, en l'ambiance, c'est une question de pouvoir. Les stratifications, les enjeux de pouvoir, les impositions qui tentent de la traverser, de la reconfigurer, de la saisir en faisant des feux d'artifice, de luminosité. Et il y a beaucoup plus dans la société d'expérimentation de l'ambiance réelle que de pensée sur l'ambiance ou de discours sur l'ambiance il y a un degré zéro de l'intérêt pour cet objet en réalité. Pardon,
merci
trop
beaucoup
long.
Véronique Naumgraff. Jean-Paul Thibault.
Merci beaucoup pour cette description-là. C'est quelque chose de très très important qui a été dit et je trouve qu'il donne absolument bien le ton de cette question des ambiances. Enfin, moi, j'adhère absolument à 100% à ce qui a été dit. Et sur cette question-là du détail et de l'importance de ce qui est présent qu'on ne remarque pas, c'est quelque chose d'extrêmement, je crois, important. Alors, une autre façon de dire, mais peut-être un peu la même chose d'une certaine manière, après, il y aurait des discussions à avoir, mais une chose que peut-être qu'on peut dire de l'ambiance, pour moi en tout cas, c'est que je crois que ce n'est pas partagé, donc ça sera l'objet d'une discussion peut-être même de divergence, c'est que, en fait, on est toujours dans une ambiance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir d'une ambiance, puisque, en fait, on est toujours dans des situations, et toute situation, pour moi, est dotée d'une qualité, qu'on va appeler d'une qualité diffuse, si on voulait reprendre le terme de John Dewey, une qualité diffuse qui est partie précisément de ce que c'est qu'une ambiance. On est dans une situation, on en ressent quelque chose, et en même temps, c'est la situation elle-même qui teinte l'expérience qu'on en a. On parle de tonalité affective. Et quand on dit tonalité affective, Stimmung, c'est pas simplement mon humeur personnelle, ce que je ressens, c'est aussi la situation elle-même qui est dotée d'une tonalité. Alors peut-être une autre façon de dire, c'est que puisque si on part de l'idée à débattre qu'on est toujours plongé dans une ambiance, peut-être que se pose la question précisément de l'ordinaire. C'est-à-dire que on est à ce point-là plongé dans les ambiances ordinaires que, évidemment, on ne les remarque pas. On n'en parle pas, on ne les thématise pas, ou très peu, ou à certains moments. on va dans une boîte de nuit pour une ambiance particulière, où on assiste à un enterrement, et là, on se dit, il y a une ambiance particulière. Donc on a des situations où, effectivement, où l'ambiance remonte à la surface. Où elle remonte à la surface et elle devient remarquable, où elle devient thématisée d'une certaine manière. On se dit, tiens, elle donne l'objet de... on en discute, on peut les en parler, mais très souvent dans notre expérience quotidienne, en fait, on ne se pose pas la question de l'ambiance dans laquelle on est plongé, et pourtant, on est bien plongé dans une ambiance. Alors peut-être que ça pose une question qui est, mais alors comment faire en sorte, pour faire remonter à la surface, ces éléments de qualité des situations qui sont présents mais non remarqués, hein, les ethnométhodologues parlent de cette question-là, seen but unnoticed, on les voit mais on ne les remarque pas. Bon, alors comment faire? Alors, et là, je ne vais peut-être pas développer, mais on pourrait dire peut-être qu'il y a au moins deux façons. Il y a la façon des situationnistes qui nous disent, ben, en fin de compte, peut-être que pour travailler la question des ambiances, il faut intensifier. Il faut intensifier l'expérience. On va construire des situations qui permettent une intensification de l'expérience et qui créent en fait des ambiances en tant que telles qu'on peut qualifier, etc. Bon, voilà. Donc là, évidemment, l'expérience est à ce point-là présente, devient au premier plan, que l'intensité elle-même va être un déclencheur d'une prise de conscience qu'on est plongé dans une ambiance. C'est la fête, par exemple. On est dans une fête et ça, on en a conscience et on peut parler de l'ambiance de la fête. Elle tient, elle prend pas, etc. Bon. Une autre façon consiste à produire des situations disruptives. Quelque chose ne fonctionne plus comme ce qui devrait. Un attentat, une catastrophe écologique. On s'attendait, comme tous les jours, à ce que les choses se passent toujours de la même manière. Je me lève le matin, je ne me pose pas la question sur le déroulement des situations, des ambiances dans lesquelles je vais être plongé. Or, s'il se trouve qu'il va y avoir un attentat et que le monde sur lequel je reposais va s'écrouler à un moment donné parce que les ambiances qui, pour moi, étaient de l'ordre de l'évidence, ce qui va de soi, ce qui n'est jamais remis en cause, va être précisément remis en cause par un événement qui va créer une disruption, qui va créer quelque chose qui fait que je ne peux plus m'appuyer dessus pour mener à bien la vie de tous les jours. Donc simplement deux exemples, par l'intensification ou par la disruption, pour dire qu'il existe sans doute des situations, on pourrait bien sûr évoquer, et ça a été fait, bien sûr, la situation poétique ou la part de la littérature et de la poésie, etc. C'est aussi une autre façon, évidemment, de dire, de parler de l'ambiance, sans forcément la thématiser d'ailleurs, mais en tout cas de l'incarner. Mais une des questions qu'on pourrait se poser, c'est comment faire en sorte pour thématiser ou faire remonter à la surface ce qui est toujours présent. Et peut-être que, si on revient à la question de la description, peut-être anthropologie, mais peut-être de façon générale, une chose qu'on pourrait se dire, c'est que l'ambiance ne relève pas d'un quoi, c'est pas qu'est-ce que font les gens, c'est pas qu'est-ce qui se passe ici, c'est pas... mais c'est plutôt la question du comment. Comment les choses se passent, comment... Véronique disait comment là, ces infimes détails, comment une posture va avoir une incidence sur une ambiance générale, comment parle une personne dans une salle, comment un jeu de regard va être déclencheur de quelque chose, etc. etc. Donc l'ambiance renvoie à du style plus qu'à du contenu d'une action. Alors là peut-être ça interroge la question esthétique, mais au sens premier de l'esthétique. Hein. Mais peut-être que c'est une difficulté aussi à travailler par le langage sur l'ambiance, mais c'est comment est-ce qu'on la décrit et comment des descriptions impliquent et engagent des manières même de décrire.
Éric Chauvier, peut-être.
Oui. Merci. Oui, parce que Jean-Paul, je pense que tu veux aller vers cette question du... Est-ce que l'ambiance est déjà là? Est-ce qu'il y a toujours des ambiances? Et en fait, je suis assez... C'est la question que je me suis posée dans mon intervention. Là, je suis allé vers l'ambiance en me disant peut-être que Goffman parlait d'une condition de félicité. Et je me suis dit, il y a peut-être une condition ambientale, un peu comme ça, c'est-à-dire une espèce d'élément contextuel requis pour qu'il y ait ambiance. Je prends l'exemple volontairement de la famille de Syriens dans le métro. On est tous confrontés. Il y en a à côté de la tour Eiffel, là, tout à l'heure. Syrien, ou peut-être pas syrien d'ailleurs, peut-être qu'ils viennent d'ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui, pour le coup, me retient de dire que c'est une ambiance. Je partirai d'un cas très concret. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a une suspension du jugement esthétique sur... Alors, ça ramène à la question, je pense, de l'ambiance comme usage. C'est-à-dire qu'on on a tous des usages du mot ambiance. Et pour ça que je disais que Kamel travaille sur l'ambiance de mort ou sur quelque chose qui déplace complètement l'usage qu'on peut avoir du mot ambiance, je trouve ça intéressant parce que ça ramène à cette condition, à cette pluralité d'usage en fait d'ambiance. Donc pour moi, c'est qui suis anthropologue, je m'intéresse qu'aux usages qu'on fait en fait des mots. Les mots, c'est comme des outils, et puis ces mots-là, s'appliquent plus ou moins aux situations en fait. Ce qui me semble problématique, c'est que dans l'ambiance, dans la phénoménologie de la perception, qui est notre rapport à l'ambiance, il y a un moment qui nous échappe, et une espèce de croyance qui s'instaure dans cette espèce d'émanation, qui est une espèce d'aura à la façon de Benjamin, mais sans être l'aura à la façon de Benjamin, c'est plutôt une sous-catégorie de l'aura, finalement, l'ambiance, je pense, on pourrait peut-être dire ça. Et dans cette croyance de ce quelque chose qui nous échappe, on va présupposer que tout est déjà là, finalement, et que il y a quelque chose de magique là-dedans. Et en fait, moi, ça me ramène à une question épistémologique, c'est-à-dire, si l'ambiance est déjà là, pour moi qui travaille sur les usages, ça ne marche pas tellement, cette histoire. C'est-à-dire que ce serait une espèce d'ontologie du réel, quelque chose qui serait qui moi, me pose problème. Je ne pense pas qu'il y ait une ontologie du réel ou qu'il y ait quelque chose qui nous prédéfinisse comme ça. C'est pour ça que je travaille sur les conditions requises pour parler d'ambiance. Et pour moi, ça reste assez associé à des mots d'esthète, à des mots à un jugement esthétique, à une façon d'aborder la vie en esthète. Et pour avoir beaucoup enquêté sur des situations, je vais dire, où la souffrance est palpable, cette suspension, ce moment éthique qui apparaît, cette suspension des mots, du langage, m'interdit absolument de parler d'ambiance. Et là, à nouveau, c'est peut-être moi qui suis... c'est mes propres usages. Hein. Je m'adresse à ce que je suis en train de dire, je me l'adresse à moi-même, comme une sorte de réflexivité. C'est-à-dire que je ne peux pas parler d'ambiance, parce que l'usage, pour moi, de l'ambiance est lié à une forme esthétique. Parce que tu as parlé de style, d'ailleurs. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et qu'est-ce qui fait que ce mot-là, d'un coup, ne fonctionne plus, ou peut paraître, voire obscène, ou inapproprié, dans certaines situations.
Merci beaucoup. Alors... On a des gens qui ne sont pas d'accord, mais je voulais revenir à Kamel Bouquer parce qu'effectivement, il y a un exemple assez interpellant d'ambiance qui n'est justement pas, enfin, qui est justement défini par quelque chose qui n'est pas aussi positif ou pas esthète, parce que voilà, on parle aussi d'ambiance sur le terrain de Kamel Bouquer.
Alors, je ne vais pas intervenir pour trancher.
C'est pas la question.
Non, mais évidemment, mais du coup, peut-être qu'en essayant d'expliciter comment j'ai été amené à mobiliser ces catégories. Alors, c'est vraiment une question de d'élucidation presque biographique, j'allais dire. C'est-à-dire, j'étais saisi dans le terrain. Donc peut-être que pour l'auditoire, je vais le titre pour lequel je suis l'auteur, c'est Les ambiances de la mort. Et le sous-titre, c'est Frayer une voie à la vengeance entre les cris, le sang et les larmes. Donc, c'est un terrain d'enquête en banlieue parisienne, ce qui arrive très rarement, heureusement. Contrairement aux États-Unis ou en Amérique latine, il arrive qu'il y ait des homicides, mais ce n'est pas très quotidien. Et donc, il y avait quelque chose de l'ordre un peu de l'extraordinaire, et le sol éthique sur lequel les gens reposaient se dérobait. Mais aussi le sens de l'ordinaire. Donc, c'est arrivé dans un café à 5h de l'après-midi, je me souviens, enfin, entre 5h et 6h, et donc la personne a été assassinée devant nos yeux. Donc, vous m'entendez ? D'accord, il faut que je parle plus fort. Donc, la personne... Ah, pardon. D'accord, donc la personne a été assassinée sous les yeux de leurs amis, des riverains, etc. Donc, oui, tout à fait. Donc, il y avait aussi une forme d'emprise de la situation qui frappait un corps dans sa chair. Le fait de ne plus pouvoir... l'un des témoins essaie d'aller chercher le médecin du coin, il perd complètement pied. Il fait plus de 200 mètres alors qu'il connaît depuis qu'il est enfant le médecin. Il y en a un qui reste saisi, immobile pendant plus de 2 heures après les événements. Certains qui n'arrivent plus à parler. Donc, l'idée, c'est d'essayer et moi-même saisi du langage qu'on perd. Donc il y a à la fois, donc moi je comprends bien la question épistémologique derrière, c'est que faire précisément de ces ambiances où quelque chose se passe. Il y a une forme de signification qui est presque infrasémiotique. Il y a quelque chose qui se transmet, visiblement, puisque les gens partagent une douleur, de la colère. Et donc l'idée, c'était, mais bon, peut-on à ce titre-là évoquer l'idée d'ambiance ou d'atmosphère en dépit de la possibilité même d'arrêter une description? Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant plus d'une semaine, personne ne cherche à décrire. Enfin, pour beaucoup, certains perdent la mémoire, se rappellent de choses. Donc, pendant une semaine, l'objet de mon ethnographie, c'est d'essayer de récupérer ces fragments d'histoire qui permettaient également à eux, aux protagonistes, de faire sens de ce qui était en train de se jouer. Donc, pour moi, c'était à la fois une sorte d'élucidation, mais presque du coup biographique pour moi, c'est de comprendre ce qui s'était joué ici, et aussi du coup pour l'enquête, de comprendre ce qui était en train de se jouer. Moi, j'ai eu tout un travail sur la question des émotions comme une expérience esthétique, dans laquelle il y a une forme de ravissement, dans laquelle on est pris, on est à la fois protagoniste, l'auteur, et en même temps... Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'articuler la question de l'agir et du pâtir, donc de la phénoménologie sur le... ce qui m'intéressait dans le champ de discipline que je travaille, c'était sur la question de la violence. On parle beaucoup de construction sociale, de la violence, etc. Et dit comme ça, la formule me tombait des mains. Construire la peur, construire la colère, ça me paraissait complètement désincarné. Donc ce qui se jouait là, c'était vraiment d'arriver à rendre compte à la fois du fait que c'était produit collectivement, mais que c'était dans leur chair quelque chose qui était de l'ordre d'être affecté par quelque chose qui vient du dehors. Donc il y avait toute une articulation là entre le corps comme réceptacle d'une ambiance qui permet de figurer des horizons d'action possibles, la vengeance, le pardon, etc. Et donc l'article, mais bon, voilà, c'était en l'occurrence pour cet événement, c'était essayer de comprendre, mais dans le champ dans lequel je suis inscrit, sociologie urbaine, la délinquance et des jeunes, on parle beaucoup de loi du talion, code de l'honneur, etc. Là, ça marchait pas, quoi. Il n'y avait pas de code, quoi. C'était pas prédéterminé. Et ce qu'on supposait qu'il allait se passer, la vengeance, n'a pas eu lieu, en raison d'une forme d'ambiance d'apaisement qui a... Et donc, moi, j'ai trouvé une certaine... un caractère très heuristique dans l'usage des atmosphères ou des ambiances pour essayer de rendre compte d'un résultat collectif que tout le monde a généré, mais sans que tout le monde, du point de vue de l'intentionnalité, ait voulu le générer. Donc ça supposait tout un réseau d'acteurs aussi, donc comment les parents modifient cette ambiance, comment la police, la justice... Donc c'était essentiellement, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais disons que voilà, moi ce qui m'intéressait, c'était de peut-être plus sur le plan théorique d'articuler la question de l'expérience, d'une écologie de la perception. Comment on voit que quelqu'un est en colère? Ça se voit pas grand chose parfois. Un clin d'œil, la commission des... c'était d'articuler une écologie de la perception, la question du corps sensible. Et ce qui était au cœur de ma thèse, c'était une sociologie morale. Et donc j'essayais de rendre compte, j'en parle dans l'article, mais une sorte de continuité émergente entre les ambiances et les jugements moraux. Et du coup, alors peut-être qu'on pourra en discuter, mais du coup, je m'appuyais sur Peirce, c'était d'essayer de rendre de compte qu'il pouvait y avoir des types de jugements éthiques ou moraux qui restent en deçà du langage.
Merci beaucoup. Alors, donc l'heure carbonelle, qui est donc la dimension morale n'est pas loin, et pourtant, on est chez les clowns.
La dimension immorale, du coup. Non, c'est vraiment une question intéressante parce que effectivement, l'ambiance, ça peut être un objet. On parle d'ambiance, et en Afrique de l'Ouest notamment, on parle concrètement d'ambianceur. Et l'ambiance n'est pas déterminée comme ça, mais il y a elle est importante. Il faut qu'elle soit là, pas seulement pour s'amuser, mais pour la réussite d'un événement. Si l'ambiance n'est pas là, l'ambiance correcte n'est pas là, ça ne fonctionne pas. Mais en même temps, cette ambiance-là, c'est pas seulement un objet. Et pour moi, je l'ai appréhendé du coup plus comme, comme ça a été appréhendé, notamment par Gernot Baume, comme, comme une question essentielle pour l'ethnologue, parce que ça fait partie de l'attribution du sens. Si on décrit un geste, une situation, cette description, le sens de ce geste ou de cette situation dépend totalement de l'ambiance. On décrit la même chose, un même geste ou une même action avec des ambiances totalement différentes, avec des émotions totalement différentes. Le sens sera totalement différent également. Et donc pour l'ethnologue, c'est extrêmement important de pouvoir saisir ça. Ça oriente totalement la compréhension des situations. Et, et ça fait partie du coup, et ce qui m'intéressait avec ce chercheur, c'est que ça fait partie totalement du processus de perception. C'est pas un objet, une ambiance qui vient se mettre sur un objet particulier, mais c'est le processus de perception qui intègre en fait cette ambiance. C'est qu'on voit quelque chose, il a son sens immédiatement, et on voit son sens par sa forme, par sa configuration, par le rapport entre, parler du jardin, du lieu, etc., de toutes les actions, mais aussi de cette ambiance qui ressort de tout cela. Et c'est aussi un enjeu du coup pour l'ethnologue. Alors, je prends une situation inverse, celle qui vient d'être décrite, une situation festive où il se passe plein de choses du point de vue du lien, du point de vue des relations, du point de vue de l'ambiance sonore, des mouvements, de la musicalité, etc. Et il faut pouvoir rendre compte aussi de ça, du point de vue de la description. Donc il y a un enjeu, j'allais dire, qui est littéraire, qui peut paraître littéraire à première vue, pouvoir, si on lit des papiers par exemple de Véronique, c'était vraiment, on est dedans, on est de pouvoir ressaisir, de pouvoir restituer un moment particulier, ça c'est un enjeu qui est primordial, mais c'est pas un enjeu seulement littéraire, on va dire esthétique, c'est un enjeu vraiment de sens, et de pouvoir respecter aussi en tant que chercheur, respecter le lieu où on était, et de pouvoir le restituer fidèlement, et fidèlement aussi qui va avec ce sens. Donc pour moi, c'est il y a toujours une ambiance, pas en tant qu'objet nécessairement, mais en tant que ça fait partie du processus de perception et du processus aussi, du coup, nécessairement moral et de signification.
Oui, finalement, une question se pose à tout le monde. Est-ce que l'ambiance est partout là où il se passe, où il ne se passe rien, où il se passe que dans une fête, dans un accident terrible, etc. Il me semble que... mais il faut mettre l'ambiance à sa place dans le champ du présent social, on va l'appeler comme ça. Donc l'ambiance, elle est ailleurs que dans l'action. L'action ou l'accident ou le crime ou la violence, le geste violent. Le geste violent, quand il fait éruption, il précède toute la pensée de tout le monde. C'est-à-dire, l'ambiance suppose, pour qu'elle fleurisse, un certain rapport au temps et à l'espace et au social. Et tout à coup, et c'est ailleurs, et c'est ça, et c'est l'histoire, et c'est la tragédie, il se passe quelque chose. La question de Marc Auger, que se passe-t-il ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Rien. On est au café, etc. Et tout à coup, le geste violent répond exactement, mais tragiquement, à la question « qu'est-ce qui se passe ?» Mais l'ambiance est ailleurs. Non seulement il la casse, non seulement il la fracture, mais le problème n'est même plus là, puisque il y a du tragique, il y a de l'histoire, il y a des faits, il y a des engrenages, il y a des pensées, il y a des tactiques, il y a des choses, il y a des paroles internes, il y a des intentions. Et là, il faut prendre peut-être le sociologue, que je trouve génial, Jacques Katz, quand il dit ce qui m'intéresse, c'est comment on est pris dans l'action ou pas. Ça, c'est fondamental pour l'ambiance. Et donc, disons que donc, l'action, la violence, quelque chose qui arrive, de positif, de négatif, etc., qui est toujours théâtral et très matériel et très physique, et très symbolique et très matériel en même temps, quand ça arrive... Ça fracasse tout, tant pis. Et même, est-ce qu'il y a de l'ambiance ou pas? Non, c'est fini. L'objet ambiance ou atmosphère, comme pour le saisir, l'outil exact, la notion exacte, c'est le flou qui est la pointure exacte, épistémologiquement, de l'objet ambiance. Et donc, vous voyez, quand on décrit nos capacités cognitives, dans le récit, linéairement, dans la parole, vont nous faire décrire des faits, vont nous les faire compter, vont nous les faire... Voilà. Et les ethnométhodologues vont noter toutes les choses matérielles ou le romancier des choses matérielles de la situation. Mais la capacité, la perception de l'ambiance doit nous changer l'épistémologie objectivante, habituelle, un petit peu, pas trop, pas attention. On ne va pas non plus dévier dans le piège du poétique. Donc, on veut objectiver cet objet qui est très matériel, mais très ténu. Et donc, l'action est ailleurs que dans l'ambiance. L'action traverse et massacre ce qui existait avant, à tel point qu'elle l'efface. Et l'action est vraiment, quand je pense à l'action, je pense vraiment à la problématique de la violence, qui est vraiment exactement le point, je dirais, de fracture de la possibilité d'une histoire tragique dans le social. Le social fabrique, fait naître une ambiance avec, dans une certaine nécessité d'espace-temps, et l'histoire, les luttes, les bagarres, etc., vient massacrer ça tout le temps, tout le temps. Et après, se retapit, se reconfigure. Et donc, je pense qu'on ne peut pas étudier l'histoire des faits, des gestes, des intentions, des tactiques. Et là, l'histoire, elle est très bien faite. Et il y a des bons outils épistémologiques pour ça. Comment démontrer, comment vérifier? Il faut compter, vive les statistiques. Et moi, je suis pour. Et ça, c'est très, très bien. Et c'est ailleurs. Sauf que ça ne réduit pas tout le présent. Quand on arrive à la... Pour saisir l'ambiance, il faut poser la question de l'échelle en temps réel. Et si vous posez la question de l'échelle en temps réel, donc du zoom sur le présent d'une situation, là, tout à coup, vous êtes dans un autre monde, dans un autre monde, dans un autre système de causalité. Alors que quand vous faites le récit, eh bien voilà, des types sont arrivés devant le café, ils ont tué le copain qui était devant et nous, pendant 2 heures, on était sidérés, etc. Vous êtes dans un autre récit. Ou ce qui est pertinent, peut-être, c'est de dire qu'est-ce que c'est que cette sidération, cette mort qu'on a tellement vue au cinéma, notre génération, votre génération n'a vu que ça, des types tombés partout. Et moi, quand j'ai assisté à Sarajevo, un vrai sniping, j'étais pendant 2 heures, les jambes comme du béton, donc je ne pouvais plus marcher. Alors que je me suis dit, la chose la plus vue au cinéma, c'est la mort d'autrui. Et c'est même un jeu d'enfant. Pan, pan, je meurs, Joe, voilà. C'est de la plus familière. Et quand on la voit en réalité, vous, votre génération, qui est gorgée d'images à un point extraordinaire du point de vue de l'anthropologie historique, eh bien, voilà, il meurt devant vous, et c'est, tout à coup, voilà, on est en pierre, on ne comprend plus rien. Et ça, cette chose-là, ça n'est plus de l'ambiance. Mais si on la met en temps réel, on s'aperçoit qu'il y a eu un événement aussi violent qu'une bascule, qu'une bombe, qu'une destruction, qu'un cataclysme. Et donc, l'épaisseur de l'ambiance qui naît du social peut être l'objet de cataclysmes aussi violents, mais totalement non visibles, le geste violent n'en est pas vraiment la cause, mais le geste violent en lui-même est ce cataclysme dans le sens qu'il produit, le sens matériel, et après tout autour, eh ben oui, peut-être là, arrêt de l'ambiance, parce que arrêt du corps, arrêt de la pensée, arrêt des sentiments, etc. Donc on est dans des échelles extrêmement différentes, à mon avis, et on a du mal à passer épistémologiquement de l'un à l'autre.
Comme vous avez pris énormément mon terrain pour, comme point d'appui, alors j'ai peut-être dû mal m'exprimer, ou peut-être pas, mais du coup, peut-être que je vais du coup intégrer la question du temps qui est à mon avis primordiale. Il me semble que du coup, la question du geste, comme vous l'appelez, du coup, du geste qui vient rompre ce sens du quotidien, c'est premièrement une démarche très rétrospective qu'ont eux-mêmes les acteurs et qui ne permet pas de restituer, donc, ce qui est le cas dans l'article, de ce qui précède ce geste. C'est que c'est une sorte d'effroi pour les gens qui le vivent, mais qui est vécu sur une autre temporalité, inscrite sur un fond d'ambiance, qui est l'ambiance de merde du quartier, qui n'est pas mesurable par ceux qui voient ou qui lisent les journaux et qui voient ça comme un fait divers, donc comme un fait, un geste inopiné qui vient... Le geste, il est pris dans une ambiance qui dure depuis un an et demi, deux ans, dans lesquels il y a des regards, des choses qui sont pesantes. On sent qu'il va y avoir... Donc c'était sur une série de... C'était des dealers, donc c'était sur une série d'accrochages. Et donc on supposait qu'il allait avoir... Que, voilà, il y avait une forme de temporalité où un événement était pendant. Donc il y avait un horizon d'une temporalité, qui, quelque chose qui pouvait tomber, sans le savoir bon, exactement à quel moment. Donc que là, le geste en lui-même, cet effroi ou cette sidération soit vécu sur le plan très subjectif comme une forme de, donc d'apothéose et donc d'une action, n'emporte pas le... Et donc, moi, ce que je trouve intéressant, du coup, c'était ça, c'était la vulnérabilité et la porosité des ambiances. C'est que ce qui était effectivement comme un acte qui venait faire basculer dans le registre de l'action, c'était aussi un geste du coup inaugural vers une autre ambiance. Et donc, je suis tout à fait, enfin, du coup, assez d'accord, mais du coup, la question peut-être épistémologique, c'est enfin, comment on circonscrit ces temporalités-là ? Parce qu'elles sont très enchevêtrées. Du point de vue des acteurs locaux, personne ne comprenait. Donc là, c'était vraiment une sorte d'effroi. C'était un moment, et ce n'était pas inscrit dans la même temporalité qu'était celle des jeunes, ni celle des parents, ni celle de la justice. Et. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est comment du coup ces ambiances ont des temporalités enchevêtrées, comment elles sont poreuses. Et donc, du coup, je pense être assez d'accord avec cette idée-là que l'ambiance est sur fond une sorte de pesanteur sur lesquelles les actions ont un autre régime, et néanmoins, leur signification ou leur portée, ou leurs attentes, ou les horizons vers lesquels les gens se projettent, font pas l'économie de ce qui est à l'arrière-plan. Donc les phénomènes par beaucoup de ça. Donc ce qui est à l'arrière-plan et qui le rendrait à la fois compréhensible sans enlever rien de ce caractère effroyable et du saisissement, c'était cet arrière-plan d'ambiance. Dans le quartier, il disait qu'il y avait une ambiance de merde. Et donc l'événement n'était pas compréhensible sans en sortir. Donc il y a eu ce moment-là d'effroi, où là on est dans le registre de l'action. Et ensuite, il y a eu toute une mise en récit qui faisait fond de quelque chose qui est resté indicible, mais qui est à l'arrière-plan, et qui informait constamment la compréhension des événements. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était suggéré dans d'autres articles sur cette question de la puissance de l'inexprimé, et qui tient lieu de quelque chose qui est de l'ordre de la suggestion, etc. Donc, il y avait à la fois de l'action, mais comme je disais, quelque chose de l'ordre du pâtir. Ils n'étaient pas tout le temps dans le registre de l'action. Ils étaient aussi dans quelque chose qui venait les habiter par-devers eux. Et donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir si c'était opérant de relier cette question à la fois des émotions, des jugements moraux et de la qualité, de la texture des ambiances.
Alors, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ton article aussi, et ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, on a beaucoup parlé du pâtir. J'ai l'impression que les acteurs subissent beaucoup les ambiances et les fabriquent aussi, mais pour l'instant, on est plutôt dans une sorte de pâtir. Et moi, ce qui m'intéressait beaucoup dans l'article de Kamel, c'est qu'on voit à un moment qu'arrive autre chose, il y a cette ambiance de mort, et puis il y a petit à petit, parce qu'il y a des institutions en place, une ambiance d'apaisement qui est créée, petit à petit. Et là, il y a effectivement quelque chose d'autre. Alors, moi, ça me fait penser aussi à Dewey et à la notion d'expérience. Quand il y a une expérience, quand on ressent quelque chose, selon Dewey, c'est souvent qu'en fait, il y a quelque chose de problématique dans la situation. Et du coup, on est en train, il y a un trouble. Et donc, les acteurs le sentent. Et c'est le moment où il va falloir commencer une enquête pour changer quelque chose, pour faire en sorte que l'expérience devienne à nouveau plus complète, plus... Voilà. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une forme d'action, mais qui est aussi subie. C'est-à-dire que les gens sont agis dans cette situation par des valeurs, par le fait qu'il s'agit maintenant d'apaiser. Et ce sont des actions de la famille, ce sont qui vont jusqu'aux funérailles. Il y a beaucoup de choses qui se passent, et les gens sont agis par ça. Alors, est-ce qu'ils sont agis par une ambiance ? Est-ce qu'on peut dire que l'ambiance, quel est ce type d'ambiance qui s'exerce sur eux ? Est-ce que c'est des choses qui sont déjà présentes, est-ce qu'ils sont... Voilà, c'est la question que je poserais.
Si on veut garder le temps quand même de proposer des questions à la salle, je propose qu'on fasse peut-être des réactions courtes de votre Absolument. Part, pas forcément centrées sur l'article qu'on discutait là, mais en ouvrant sur La question justement d'une pluralité des ambiances, est-ce que les ambiances peuvent coexister? Est-ce que dans la durée, justement, il peut y avoir des ambiances qui passent et puis qui redisparaissent tandis que d'autres restent très longuement? Ça, je pense, c'est une question que, sur laquelle l'échelle en fait, de temps de l'ambiance, sur laquelle vous auriez tous des choses également à dire, en étant un petit peu plus bref, s'il vous plaît, pour qu'on puisse aussi proposer les questions à la salle.
Mais c'est effectivement une question, je pense, très, très importante, la question de la temporalité ou des temporalités, en fait, mise en œuvre des ambiances. Il y en a au moins deux, il me semble. À la fois la dynamique interne et immédiate de l'ambiance. Quand Eric dit mais l'ambiance, tout est déjà là, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord de cette formulation-là, parce que l'ambiance, c'est précisément quelque chose qui est de l'ordre du dynamique en train de se faire. Ce n'est pas un objet qui se représente, c'est quelque chose qui est en train de se faire, c'est une dynamique. Donc cette dynamique-là, et toute la difficulté consiste à savoir qu'est-ce qui participe de cette dynamique. Et donc qu'est-ce qui conjugue à la fois des façons d'être, de se comporter, un éclairage, une configuration spatiale, tout un ensemble d'éléments très hétérogènes qui se conjuguent à un moment donné pour créer une dynamique particulière. Donc il y a cette temporalité-là, d'une part, et d'autre part, et comme elle le disait très bien, il y a la temporalité, il me semble aussi, de l'épaisseur historique ou socio-historique d'un lieu ou d'une situation. C'est-à-dire qu'une ambiance n'est pas complètement évanescente, elle est à la fois évanescente, mais en même temps, elle a une capacité à se sédimenter, à se répéter dans le temps. Demain, je vais vivre une situation que je connais déjà. Et donc, voilà, il y a des ambiances que je connais déjà, que je reconduis moi-même et auxquelles je participe. Donc, je ne suis pas uniquement dans du pâtir, dans du passif, mais je suis moi-même acteur de l'ambiance que je reconduis en même temps, quoi. Donc c'est tout ça qui se pose, il me semble. Alors après, deux choses, et je vais m'arrêter là. Il y a effectivement un autre point très important qui est celle, il me semble, de l'encadrement de l'ambiance, c'est-à-dire qu'on a certainement aussi des types d'acteurs qui ont un statut particulier dans la production d'une ambiance. Alors, ça peut être quoi? Ça peut être le donneur d'ambiance, l'ambianceur en Afrique, par exemple, voilà, un acteur. Mais ça peut être aussi une institution qui donne des règles sur ce qu'on peut faire ou pas faire dans tel lieu. Ça participe d'une ambiance, à un encadrement de l'ambiance. La police, le service de sécurité, le service de nettoyage de la ville, tous ces éléments-là, tous ces acteurs-là, sont aussi partie prenante d'une ambiance. Donc, comment est-ce que l'ambiance est de fait encadrée socialement, économiquement, etc. C'est une chose. Et une deuxième chose, c'est le fait que peut-être qu'une façon de réfléchir à cette dynamique d'ambiance, c'est de réfléchir en termes d'installation et non pas de production. C'est-à-dire qu'il me semble qu'une ambiance est fondamentalement à poser sous le régime de l'installation, c'est-à-dire d'un processus continu qui fait qu'elle prend du temps. Elle prend du temps à s'installer et que, ben on le dit, voilà, même dans les fêtes, ben voilà, on fait chauffer, quoi. L'ambianceur le sait bien, quoi. Il pour mettre dans l'ambiance, il lui faut du temps. Elle monte, elle croît, il y a un climax, etc., quoi. Donc il y a des processus d'installation des choses. Mais je m'en fous.
Vite fait alors, juste deux choses. La première, quand je dis tout est déjà là. Je fais allusion à la subjectivation de l'expérience, le sujet qui éprouve l'ambiance. Je pense que n'importe quel individu rationnel peut considérer qu'il y a un mécanisme de fabrication par rapport à ce que tu dis. En même temps, je pense aux fanatiques religieux. Est-ce que le fanatique religieux, dans la subjectivation de l'ambiance qui est là juste avant l'attentat, est-ce qu'il n'y a pas l'impression dans l'expérience subjective que tout est déjà là? Moi, en tant qu'anthropologue, ce qui m'intéresse, c'est les usages qu'on fait du monde. Et je pense que on peut poser cette question en fonction des usages faits du mécanisme d'ambiance d'une certaine façon. Je ne sais pas si je suis très clair. Enfin, en tout cas, voilà. Et le deuxième point, c'est que je pense que je maintiens, me semble-t-il, que tout n'est pas ambiance. Que je parlais de dissonance. Il y a des moments de dissonance du réel. Je pense que l'ambiance nécessite une certaine réconciliation du sujet avec des éléments sensoriels, mémoriels, culturels, qui font qu'il va pouvoir éprouver l'harmonie d'un instant. Et l'harmonie, et donc éprouver une forme d'ambiance. Je pense, cette suspension du jugement que j'évoquais, la vie est aussi faite de moments dissonants, en fait, qui suspendent toute ambiance, à mon avis. Et à nouveau, là, il faut qu'on parle de la même chose, c'est-à-dire dans la subjectivation qu'on fait de cette expérience, de celui qui ressent l'ambiance. Celui qui ressent l'ambiance peut aussi considérer de façon tout à fait consciente qu'il n'y a pas d'ambiance, qu'il y a autre chose qui est brutal, qui est dissonant, moi j'utilise beaucoup le mot dissonant, qui empêche de définir de façon harmonieuse avec cette réconciliation des sens, du patrimoine culturel, de l'imaginaire. Enfin, une ambiance, ressentir une ambiance, c'est quand même mobiliser un imaginaire. Et dans une situation d'effroi comme celle que tu décris, l'imaginaire, il est nul. On n'est qu'un corps tétanisé. Et ouais. Donc, là, voilà. Mais voilà. Bref.
En un mot, j'aurais effectivement une approche plus dynamique aussi de l'ambiance par rapport au personnage, au clown que je suis. Et ce qui était intéressant, c'est que j'ai travaillé au Mali. Il y a un autre article dans le numéro où c'est une collègue qui travaille sur les clowns d'hôpitaux. Et ce sont exactement les mêmes procédures. Avec un point qui est très important, c'est que des clowns qui vont arriver avec l'envie d'emmener une ambiance bouffonne, on va dire. Mais pour pouvoir faire ça, ils vont devoir arriver, de checker par les regards. On parlait d'un sourire, un regard. Si finalement l'ambiance peut prendre, s'il y a une adhésion à leur action, et ensuite s'ajuster. Hop, ils sautent sur la table, ils proposent au statut de s'asseoir parce qu'ils sont très mal polis d'être debout. Ils voient les réactions, etc. Et en fonction de l'ambiance qu'ils ressentent par rapport à, peut-être au début c'est une personne qui sourit et qui s'engage avec eux, et puis finalement dans une situation tout le monde trouve ça vraiment dégoûtant. Et ils n'aiment pas ça du tout, donc là du coup ils vont devoir s'ajuster, et ça c'est de l'interaction quotidienne. Pour moi l'ambiance c'est vraiment l'interaction quotidienne, et ça définit vraiment le sens de la socialité.
Merci beaucoup. Je pense qu'on va passer le micro à la salle, donc si quelqu'un a des questions, on va faire ça de façon très traditionnelle, vous allez lever la main et puis on va faire une liste. Ah, une question là-bas.
Alors moi j'ai une question, je ne suis pas sûre d'être très claire, mais je vais essayer de l'être. Alors c'est juste pour continuer un peu ce qu'a commencé à dire Maxime sur le pâtir et l'agir. Moi il me semble que c'est un mouvement en fait qui se nourrit tout le temps, c'est-à-dire que je pense à l'expérience de Kamel où en fait les gens sont paralysés. Oui, ils subissent l'ambiance et en même temps ils y agissent en étant juste paralysés, ce qui se transmet dans l'ambiance et ce qui perpétue l'ambiance en fait dans le temps. Et en fait, ma question plus précise, j'en ai plein qui arrivent, mais je vais en choisir qu'une seule, c'est est-ce qu'une ambiance peut se transmettre à des gens qui ne vivent pas l'interaction en train de se faire ? Par exemple, un producteur de reportage, est-ce que vous pensez dans le concept de l'ambiance que vous utilisez tous ? Est-ce que c'est possible de transmettre cette ambiance à des spectateurs qui ne sont pas là au moment où l'ambiance se vit ? Voilà.
Je dirais bien quelque chose. Je pense que l'ambiance a ceci de délicat que quand on la décrit, on la reconfigure complètement. Déjà, par exemple, si je dis ah, est-ce que le jardin autour de nous a de l'importance ? Déjà, je change. C'est-à-dire que c'est vraiment cet objet où le fait de regarder change l'objet. Alors, c'est ça qui donne l'aspect performatif génial aux écrivains. Donc, pensons aux grandes descriptions, Proust, etc., ou à la poésie, ou aux très bons films où le metteur en scène ou l'écriture de la caméra est imprégnée. Et donc, où est-ce qu'il y a restitution de l'ambiance ? En tout cas, il y a proposition qu'on la devine un peu. Alors que le reportage extrêmement rapide, voilà, il y a une inondation, le type a le nez hors de l'eau, alors qu'est-ce que vous éprouvez, votre maison ? Voilà, alors cette rapidité, il y a l'inondation, il y a les images, il y a des discours, et il n'y a pas l'ambiance dans le reportage très rapide, parfois. Donc on voit bien que c'est le talent littéraire, au fond peut-être ça c'est très concret, mais merci la littérature, ou le talent même de celui qui tient la caméra ou qui pense le scénario, c'est le talent qui nous restitue l'ambiance, sauf que c'est une ambiance reconfigurée dont on n'est pas sûr, on ne sera jamais sûr que c'était elle ou pas, ou peut-être on pourra le vérifier, ou peut-être il faut à nouveau reprendre cette description et la retravailler. Ou peut-être, parce que est-ce qu'on peut reproduire une ambiance à chaque fois mécaniquement ? À mon avis, non, parce que contrairement à cette idée que c'est l'usage du monde et l'usage des mots qui nous donne la clé sur ce que c'est que l'ambiance, moi j'aurais plutôt, enfin, c'est vrai, c'est toute une strate, mais aussi, je dirais que c'est toute l'épaisseur du présent en ce cas-là, de non-pensable et d'incommensurable, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas, parce que la moindre molécule de matière réelle, on ne la comprend pas. Et c'est ça qui donne à l'ambiance, et cette espèce d'arrière-fond des normes, cette chose étrange qu'on appelle réalité, qui n'est peut-être due qu'à l'absence momentanée de l'alcool. Hein. La réalité n'est qu'une illusion due à l'absence. Cette chose qu'on appelle réalité, énorme et incompréhensible, c'est elle quand même, dans le présent, qui est là. Et voilà, les mots arrivent, etc. D'où le fait que peut-être, et c'est plausible, et là, c'est là où les historiens nous alertent sur l'anachronisme, il y a des anachronismes horizontaux et de contemporains, où il faut qu'on accepte que l'ambiance d'une situation n'a pas été présente, même avec les artistes les plus géniaux, etc. Que là, pour le coup, bon, bah voilà, la bibliothèque d'Alexandrie, elle a brûlé. On ne saura pas qu'il s'est perdu, qu'il y a quelque chose de perdu. Mais bon, c'est pas triste non plus. Parce que...
C'est une belle question. Autre question, autre réponse.
Juste pour répondre très rapidement, enfin, c'est une question pour moi, ça s'est posé, c'est-à-dire que si je n'étais pas capable de rendre compte de l'ambiance, je me suis rendu compte que je faisais des descriptions hyper techniques sur les procédés bouffons, etc. Et en fait, plus j'avançais dans la description et l'analyse, plus mon objet, je le perdais en fait. Je voyais plus, enfin c'était plus la même chose que ce que j'avais observé. Donc c'était vraiment une question de, je suis ethnologue, je suis quand même censée. Donc c'était mon objet, c'était pas au départ de restituer l'ambiance, mais cette idée de restituer en l'ambiance, elle était obligatoire en fait.
Oui, très rapidement, je vais aussi prêcher pour ma chapelle. Enfin, l'ethnographe, quand il vient sur, on fait partie de la même chapelle, ça tombe bien. Quand il vient sur son terrain, ce qu'il va faire, c'est qu'il va affiner un regard. Et quand le documentariste arrive sur un terrain, il vient avec son propre regard. Et c'est la question de l'ambiance, la question de la relation entre le regard et l'ambiance nous semble absolument fondamentale, parce qu'il y a une véritable pluralité de ces lieux, de ces situations qu'on peut observer. Et chacun vient avec son propre regard, et l'ethnographe va affiner, va modifier en profondeur son regard, et pour cela on a besoin de la durée, on a besoin de savoir comment s'installent ces ambiances pour pouvoir restituer, que ce soit dans un texte ou par des images aussi, pourquoi pas, ce que c'est que cette ambiance-là. Et voilà. Donc, alors, question.
Bonsoir. Excusez-moi. Bien, je suis surpris par ce que j'entends. Je suis très surpris. Mais c'est fort intéressant. En fin de compte, vous avez tous de très hautes qualités, chacun dans votre discipline. Mais je ne comprends pas le but de l'étude de l'ambiance. En fin de compte, une belle ambiance, c'est une ambiance naturelle. Et pourquoi l'étudier ? Parce que vous voulez la modifier ? Parce que vous voulez avoir des points de comparaison pour créer chaque fois une belle ambiance ? Mais le spectateur se fout pas mal de la belle ambiance si elle ne vient pas de lui, s'il ne participe pas à cette ambiance. Je vais juste vous raconter une petite histoire et si je peux, je pose la question après. Il y a très longtemps de cela, j'étais adolescent et j'avais un ami qui était baryton, un jeune baryton d'ailleurs. Et il parlait avec des gens qui connaissaient bien l'ambiance de l'opéra. Et j'entends dire une chose vraiment étourdissante. À la première de la représentation, c'est celle qui compte. C'est là où il y a le monde connaisseur de l'opéra en particulier. Alors, ce qui compte, c'est qu'il y ait une belle ambiance. Peu importe, quand même, il faut que le baryton ne soit pas complètement nul. Mais ce qui compte, c'est qu'il y ait une poussée d'applaudissements. Et comment on fait ? Et là, j'ai tendu mes oreilles, il y a la claque. Qu'est-ce que la claque ? Je vais vous le dire tel que je l'ai appris à l'époque, hein, et depuis ça m'est resté ancré. La claque, eh bien, c'est une bourse qu'on distribue à un groupe de personnes qui ne fait que ça. C'est la claque. Ils se promènent de spectacle en spectacle, et bien sûr, dès que vous entendez claquer des mains, vous claquez vos mains. Ça, c'est comme madame a dit, la foule, le discours, la politique. Quelqu'un crie, quelqu'un lève le bras, le poing, le petit doigt, tout le monde va le suivre. Pourquoi ? Parce que c'est humain. Eh bien, voilà comment on emporte des spectacles qu'ils ne le méritaient peut-être pas, parce qu'ils ne vont pas faire tous les soirs la claque. Hein. Ça coûte assez cher, et c'est le premier soir. Et après, vous vous débrouillez. Mais c'est passé dans les journaux. Voilà. Et moi, j'aimerais quand même savoir, alors je vais essayer de poser ma question le plus simplement possible et sans vouloir vous heurter. Je pense que s'il y a autant de personnes que vous qui s'occupent de l'ambiance, mais dans quel but? Mais qui êtes-vous? Comment faites-vous? Qui vous emploie? Les politiques? Les théâtreux? Mais je ne sais pas. Sinon, à quoi serviraient tous ces doctorants, tous ces... Mes compliments, d'ailleurs. Et tous ces diplômes? Je ne comprends pas, parce que si vous avez eu autant de qualités pour arriver là où vous êtes, vous auriez pu faire aussi bien autre chose.
Oui, c'est vrai.
Et qui aurait été peut-être beaucoup plus dopant pour votre vie. Parce qu'une vie, c'est très, très important. Et l'ambiance, vous allez la créer vous-même, de votre vie. Et votre vie, c'est le plus beau des spectacles.
Vous aviez prévu une question simple. C'est pas simple. Mais si quelqu'un veut réagir, allez, Véronique.
Oui, merci. Merci et bravo, je dirais, pour votre intervention. Il y a une légère contradiction dans le fait de dire pourquoi étudier l'ambiance, puisque si elle est belle, chacun la crée, on n'a pas besoin du chercheur. Vous venez même la gâcher avec vos études. Et en même temps, l'exemple de la claque. Parce que, alors tout à coup, des types payés viennent claquer, tout le monde claque, claque, claque. Alors, s'ils sont tellement contents de créer une belle ambiance tout seul et qu'on ne veut pas la gâcher en l'étudiant, les types qui font la claque, eux, ils l'instrumentalisent. Vous voyez, donc à la fois dans votre intervention, il y a à la fois pourquoi vous étudiez l'ambiance, c'est complètement inutile. Pas besoin de vous, les chercheurs, faites autre chose de plus intéressant. Et en même temps, il y a une ambiance, c'est tellement fragile que des types qui viennent claquer, qui n'ont peut-être même pas vu, ils arrivent au dernier moment, ils n'ont même pas vu la pièce, ils changent compte et ils entraînent les artistes dans le journal. Vous voyez, donc déjà, ce serait intéressant que les chercheurs étudient comment on instrumentalise l'ambiance, de votre point de vue. Mais là où je voulais vous répondre, c'est que, eh ben voilà, il y a des métiers, il y a la recherche scientifique. Eh ben vous dites, mais pourquoi? Dans quel but? Dans quelle fonction? Eh bien voilà, c'est parce que l'être humain est pionnier et que les chercheurs, ils se disent, qu'est-ce que c'est que cet objet-là? C'est décrit dans la littérature, c'est dans les tableaux, c'est un peu non précisé. Nous allons tenter de préciser. Pour aucune autre raison, aucune stratégie, aucune tactique, aucune fonction. Et c'est vrai que faire ceci plutôt qu'autre chose, là, personne ne peut répondre. On aurait voulu être des artistes, tous, voilà. Donc, je vous remercie aussi pour votre souvenir et pour votre intervention, parce que c'est joli, parce que vous dites, mais vous allez là, qu'est-ce que vous faites? Et là, on se sent, vous avez changé l'ambiance, on se sent un peu ridicule.
On peut aussi vous rassurer, l'ambiance n'est pas le seul objet de travail des personnes autour de la table. Il y a beaucoup d'activités différentes. Non, mais il faut le dire aussi parce que c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être de la salle? Il ne nous reste plus tellement de temps. Voilà.
Oui, il y a quand même eu souvent dans les propos des uns et des autres d'ailleurs comme une petite tristesse et une opposition entre le discours et le texte et la description de l'ethnologue, du géographe, de l'historien, du philosophe, ce qui serait quand même les possibilités immenses et merveilleuses de la littérature ou du cinéma ou de l'image. Et c'est là-dessus, moi, que je voudrais revenir, parce que ce fossé, ce regret mérite aussi d'être interrogé, en particulier sur un objet comme l'ambiance. Je pense qu'il y a le problème aussi, il y a un problème de connaissance d'un objet en effet nouveau, évanescent, comme tu l'as dit Véronique, mais il y a aussi ce type d'objet qui remet un peu en question la façon d'écrire et de travailler, je pense. Je vous donne un exemple. Beaucoup d'entre vous, peut-être, ont lu 14 juillet de Vuillard. Merveilleux texte sur la journée du 14 juillet par un romancier. Et plusieurs amis historiens, dont Boucheron, par exemple, me disaient « Mais c'est un rêve d'historien. » Et alors, pourquoi ça doit rester un rêve d'historien ou parfois un rêve d'anthropologue? Et n'y a-t-il pas moyen de d'écrire les choses, de les écrire, de les décrire, en étant au plus près de ce que l'on voit, de ce que l'on sent, mais en étant capable d'en restituer quelque chose. Et je donne l'exemple de Vuillard, mais pour en rester dans le registre de l'histoire, au fond, quand Michelet parle de la Révolution française, c'est un historien, il écrit comme Vuillard. Mais les sociologues, surtout les anthropologues, souvent, ont du mal avec ça. Voilà.
Littérature et anthropologie.
Non, on n'a pas de mal. Enfin, je veux dire, on n'a pas de mal. C'est partie intégrante. Tous les anthropologues, d'abord, ne sont pas accordés, n'accordent pas leur violon. On a des postures assez différentes. Pour ma part, je travaille beaucoup de façon narrative et restituer, travailler une enquête, c'est pas forcément donner une expertise close qui serait dénuée de narrativité, qui serait dénuée. Pour moi, l'enquête, c'est le récit de la fabrication de l'enquête. Donc ça implique cette dimension narrative qui est très importante, donc de savoir écrire un minimum, et puis aussi de ménager des espaces ou des zones littéraires que je ne contrôle pas, ce qui arrive toujours sur un terrain en fait. Et du coup, peut-être que les ambiances, bon, en tout cas, moi j'ai du mal avec ce mot finalement. Je parlerai d'impressionnisme. C'est-à-dire, il y a des éléments impressionnistes qui vont apparaître dans l'enquête parce que j'ai vécu ça sur mon terrain. C'est-à-dire des éléments que je ne comprends pas, qui m'échappent. On va dire une poétique, quelque part. Et cette poétique-là, elle est déterminante, parce que ce que vous donnez à lire, tout d'un coup, ça n'est plus une expertise close sur le monde, c'est un monde qui échappe en partie à celui qui a prétendu l'observer. Et ça devient très intéressant, je trouve, parce que le lecteur n'est plus consommateur. Un peu, voilà. Et le doute s'instaure, l'image poétique s'instaure. Donc, je dirais plutôt impressionnisme qu'ambiance, mais c'est quelque chose qui est très important, je trouve. Je trouve que l'expertise dans la fameuse République des experts manque cruellement d'impressionnisme, par exemple. Et il est bien évident que prétendre analyser le monde en étant toujours catégorique, c'est quelque chose qui est juste un délit, un abus de pouvoir, en fait. La réalité telle que nous l'observons, elle est à peu près régulièrement, j'utilisais le mot dissonante tout à l'heure, elle est dissonante très souvent. Pour avoir travaillé aussi avec des jeunes en Seine-Saint-Denis, dans des ateliers pour adolescents déscolarisés, il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Et même en étant resté longtemps. Et c'est intéressant de le ramener. Et c'est à ce moment-là que l'ambiance, l'impression, tout ce qui échappe un peu, devient à mon avis intéressant.
Peut-être une façon de répondre à plusieurs questions. Je pense qu'il me semble qu'un des enjeux en fait, de cette « pourquoi est-ce qu'on travaille sur l'ambiance ?» Quel intérêt, et c'est vrai que les écrivains font ça très très bien aussi. Je pense qu'il y a un enjeu par rapport au devenir du monde actuel, et en particulier sur l'état de notre sensibilité au monde. Il me semble que l'ambiance permet justement de travailler sur des choses extrêmement fines. Ça a été, je pense, montré à plein de reprises tout à l'heure, et permet de mettre en avant la question des nuances de l'expérience. Et que ce monde des nuances de l'expérience, ce monde de notre sensibilité commune, en fait, peut-être qu'on peut l'interroger maintenant, quand on regarde, quand on mène des travaux sur des travaux très empiriques, hein, sur la conception de certains espaces urbains, sur, et on peut démultiplier les exemples en la matière, où on s'aperçoit quand même qu'on peut se poser une question sur la qualité des espaces qu'on habite. Et cette qualité-là, elle a aussi des effets sur notre sensibilité commune, partagée. Le fait de travailler sur l'ambiance, c'est peut-être aussi une façon, à un moment donné, de s'arrêter et de se dire où en est notre sensibilité contemporaine actuellement, comment est-ce qu'elle évolue, est-ce qu'il n'y a pas des garde-fous à mettre en avant, est-ce qu'il n'y aurait pas des logiques sous-jacentes à essayer d'analyser et d'expliciter pour peut-être aussi faire acte de résistance. Donc je pense qu'il y a un enjeu sociopolitique aussi derrière l'ambiance, consistant à dire, bien sûr, un premier niveau, c'est une façon de reconnaître la part de la sensibilité dans un travail de recherche en sciences sociales. Bon, Ça devient maintenant une banalité de le dire, mais ça n'a pas toujours été. Et dans les sciences sociales, loin s'en faut qu'il y ait un accord là-dessus. Il y a encore énormément de travaux qui seraient très critiques par rapport à cette position-là. Il faut objectiver, il faut quantifier, il faut évaluer, etc. Et donc la part du chercheur là-dedans, elle doit être éjectée. Bon, ça c'est une chose. Mais une deuxième chose, je crois, c'est que l'enjeu aussi de travailler sur ces thématiques-là, c'est de se demander, mais où est-ce qu'on va collectivement dans la façon dont le monde évolue et dans la façon dont il nous affecte dans notre sensibilité. Je pense que là, il y a un vrai enjeu qui concerne tout le monde, de mon point de vue.
Question. Oui, je vous pose une question. Je n'ai pas lu l'introduction, donc peut-être que vous le faites dedans. Par rapport à la différence entre ambiance et environnement, j'ai un peu l'intuition de où elle se trouve, mais voilà, si vous avez réfléchi là-dessus. Et puis encore une question, c'est ambiance, c'est un mot qui est très lié pour moi enfin, au contexte français. Enfin, vous parlez entre français ici, vous comprenez. Voilà, c'est une compétence culturelle pour décrire une certaine famille d'expériences. Mais est-ce que ce mot ambiance, on va l'utiliser dans un autre espace culturel? Je ne sais pas, un Danois, par exemple, il va utiliser Hygge. Donc, voilà, c'est. Je ne sais pas, l'allemand, peut-être, tu es parti, Maxime, tu es parti de l'Allemagne. Donc, voilà, c'est. Quel est. Je ne sais pas, on peut peut-être. Bon, monsieur, il a reçu déjà beaucoup de réponses, mais peut-être ça peut ajouter encore une brique.
Oui, merci beaucoup. Je viens insérer un mot à ce sujet parce qu'on a essayé de réfléchir à ça dans l'introduction et ça permet aussi de revenir sur la question d'avant. Donc là, je réponds à ta deuxième question sur les contextes culturels. Enfin, j'y réponds en partie. En fait, c'est intéressant parce qu'effectivement, les écrivains sont très forts en ambiance parce que c'est eux qui ont inventé le mot en français. Donc c'est vrai qu'il y a aussi une filiation. Il y a un effet d'époque, en fait. Hein. C'est très fin de siècle. La notion même d'ambiance, telle qu'en tout cas on a réussi à la retracer là dans nos recherches, disons, c'est pas une recherche complète et exhaustive, mais c'est vrai qu'elle est vraiment utilisée par des gens comme Villiers-l'Isle-Adam, Mallarmé, Baudelaire parle d'atmosphère encore, en allant chercher lui une filiation du côté de Poe, donc américaine, mais tout ça c'est vraiment des gens qui travaillent la langue, qui sont des poètes, qui sont des gens attentifs à ce qui se fait aussi dans les arts, qui ne sont pas uniquement la poésie. Donc il y a cette... c'est pour ça que ça renvoie un peu à ce que disait Éric Chauvier sur la notion d'esthète. Et c'est vrai que c'était en partie, moi, quelque chose qui me dérangeait beaucoup en fait, dans la notion d'ambiance au départ. Donc retracer cette filiation, ça a permis de montrer qu'il y avait un contexte effectivement culturel, effectivement linguistique, français, et que ambiance ne se dit pas de cette manière-là, en tout cas pas à la même époque, dans les langues voisines, à ma connaissance. Je n'ai pas non plus fait le tour de la question, mais on le voit bien dans la littérature sur les ambiances à l'échelle, disons, internationale, que Jean-Paul connaît beaucoup mieux que moi, donc il pourra me corriger, mais on parle beaucoup plus d'atmosphère, l'atmosphère en anglais, en allemand, en italien, et dans pas mal d'autres langues que j'ignore, mais c'est vrai qu'il y a cette non-évidence du mot d'ambiance et ce double mot, ambiance-atmosphère, sur lequel on a proposé de réfléchir, disons, avec Maxime, non pas, encore une fois, pour avoir fait le tour de la question, mais pour nourrir le débat. Donc on le développe un petit peu dans l'introduction avec deux propositions de critères, mais je ne veux pas être trop long là. Mais effectivement, l'ambiance, pour aller très vite, hein, et peut-être que ça vous fera bondir, mais ce serait, de mon point de vue, quelque chose comme une partie, une réduction, une transformation de l'atmosphère qui est déjà là. L'atmosphère envoyant un lexique qui vient des sciences, en fait, qui arrive, donc composé de mots grecs, qui arrive dès le XVIIe siècle. Alors que l'ambiance, c'est vraiment fin XIXe, pour le cas du français, en tout cas. Donc ça permet d'éclaircir un peu, et du coup, également d'éclairer un tout petit peu la première de tes questions sur ambiance et environnement. Il y aurait beaucoup de choses à dire. On pourrait insérer, je dirais, ça ce serait vraiment ma réponse comme ça, mais des notions aussi intermédiaires à chaque fois correspondant à des usages précis, comme celle de milieu, hein, milieu perceptif, milieu sensible, milieu sensoriel, qui est également très très commenté dans ces années-là, avec des enjeux politiques, des enjeux historiques. On a un peu oublié ça, mais l'anthropo-géographie de l'époque, ce genre de propos, sont des moments où on s'intéresse à ça, au climat également. Donc tout ça seront des notions qu'il faudrait distinguer, et c'est un travail qui commence à être bien fait quand même. Il y a un champ qui s'est un peu... Je ne sais pas exactement d'ailleurs à quel moment ce mot est apparu en français, mais qui s'est un peu autodésigné humanité environnementale. Il y a pas mal de publications à ce sujet-là et un travail lexical, en fait, Moi, ça m'a beaucoup intéressé pour distinguer toutes ces notions. Donc, je ne peux pas répondre de manière trop rapide et sans doute que vous pourrez réagir aussi. Mais l'environnement, bien sûr, renvoie aux sciences naturelles à une forme d'objectivité, plus de recherche d'objectivité, là où ambiance serait plus à replacer du côté du paysage également, c'est-à-dire de l'expérience sensible. Une fois qu'on a commencé à faire cette distinction-là, justement, il ne s'agit surtout pas de reconduire un dualisme brutal et archaïque, mais d'essayer de penser justement dans quelle situation en fait, nous avons besoin de ces notions-là, à quoi elles nous servent, que produisent-elles comme effet, et en quoi les distinguer peut être intéressant pour rendre plus intelligible ce qui nous arrive. Si vous voulez réagir vous-même.
Moi, j'ai juste une réaction, mais très, très rapide, parce que j'étais en train de me figurer par rapport aux réponses. L'une des manières de formuler le caractère peut-être heuristique de cette notion, c'est de s'imaginer une situation dans laquelle les protagonistes ne comprendraient pas l'ambiance ou l'atmosphère. Parce que ça me renvoyait à des lectures que je faisais très récemment sur le vertige sceptique. Ça supposerait... Qu'est-ce que serait un monde dans lequel les protagonistes ou les acteurs ne seraient pas capables de reconnaître la signification d'une atmosphère ou d'une ambiance? On imagine un mariage ou un enterrement, les gens viennent, sont à contre-temps de ce qui se passe. Parce que ça répond de manière un peu à ta question, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement de savoir si les gens ont en usage le mot ou le concept, mais c'est qu'il n'y a pas de... Il me semble, il y a des anthropologues qui seraient mieux à même... pour moi de répondre, mais aucune société peut faire l'économie de ce savoir et d'arrière-plan que tout le monde effectue au quotidien, quoi, dans ces glissements d'ambiance. Je rentre dans une église, une cathédrale, et bon, les gens intuitivement, donc ce qui était la question de l'imprégnation est très utile, ou de l'intuition, c'est que aucune société ou groupe ne fait l'économie de la compétence, de reconnaissance ou de perception de ces ambiances-là très poreuses. Avec parfois des erreurs, il y a des gens qui commettent des erreurs et ça crée des malentendus. Mais voilà, ça me faisait penser à cette idée-là que du coup, ça suppose aussi une forme de compétence indépendamment de ce que les gens...
Juste une phrase. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit et je pense que donc c'est un objet où la nuance est un abîme là. Et c'est pas tous les objets qui sont, et le fait que c'est quand même un enjeu vital de connivence collective qui parfois peut entraîner des catastrophes, c'est d'être au diapason de l'ambiance. Donc il y a des enjeux sociologiques dans cette notion, vraiment sociologiques, qui sont aussi qui justifient qu'on la travaille.
Merci beaucoup. Merci au musée du Quai Branly de nous avoir reçus, de nous avoir ouvert ses portes. Merci au comité de rédaction de la revue. Merci beaucoup au public. Merci à tous les intervenants. Merci beaucoup.
J'ai oublié de vous dire que le libraire n'a pas pu se déplacer. Il y a un problème de personnel. Mais que la revue est bien entendu en vente à la librairie. L'éditrice est là et peut... je crois qu'elle a 4 exemplaires pour ceux qui la veulent. Tout de suite, voilà, c'est tout à fait faisable. Encore merci à tous.
Et pour les autres, il y a quelques exemplaires de tirés à part de l'introduction, si vous avez envie de vous y plonger. C'est possible aussi, voilà. Mais je vous conseille vraiment de l'acheter, c'est encore mieux. Bonne soirée.